Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il y a toujours eu un mystère, Piccoli. Derrière sa flamboyance de seigneur et ce jeu teinté d'ironie dont s'est nourri le cinéma de Godard, de Buñuel, de Louis Malle, de Claude Sautet. En fait, cette légende du cinéma a imprimé plus fort que les autres la pellicule au cours de 200 films. Ce sont donc les choses de sa vie que l'on va évoquer avec Michel Piccoli en réécoutant l'interview qu'il m'avait accordée. Lui qui a connu Boris Vian, Sartre, Camus, Ionesco, mais qui ne portait pas sa mémoire comme un drapeau. Ses rôles furent tour à tour énigmatiques, séduisants, dérangeants, car il est tout ça à la fois, Michel Piccoli, le grand sphinx du cinéma français.
Europe 1.
Bonjour Michel Piccoli.
Bonjour, écoutez, au revoir, vous avez tout dit.
au secours, restez, on a mille choses à se raconter.
Je reste.
Et alors d'ailleurs, la première question, c'est dangereux pour un comédien de devenir un homme d'expérience?
Très dangereux. Mais je pense que pour tous les hommes, pour toutes les femmes, devenir quelqu'un d'expérience, je crois que c'est très dangereux. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont des gens d'expérience et qui se sont installés dans leur expérience, dans leur réussite, dans leur savoir, dans leur confort. Et dans tous les domaines, dans tous les métiers, ce sont les gens qui continuent à faire des voyages, des recherches, quel que soit le métier que l'on fasse, hein, quelle que soit la discipline que l'on doive respecter, il faut toujours, je trouve, chercher. Vous allez me dire, mais pour trouver quoi? mais ça fait rien, si on trouve rien, on trouve un tas de choses.
C'est la quête, de toute façon, qui est essentielle.
Oui, un peu comme, je suis très prétentieux, hein, je préfère être plombier en quête d'un tas de choses plutôt qu'un astrophysicien rangé.
Mais Michel Piccoli, comme vous êtes acteur, expliquez-nous, comment au bout de 50 ans de métier, parvient-on à ne pas devenir un homme d'expérience?
En faisant toujours des exercices. Bien sûr que j'ai de l'expérience de mon métier. Bien sûr que j'ai appris à articuler et à avoir des voix différentes. Et non pas toujours la même voix d'acteur.
Oh mon Dieu, refaites-le nous.
D'acteur, la voix. Mais c'est en cherchant toujours, en rencontrant des personnes très diverses, même quelquefois opposées, artistiquement ou idéologiquement, je ne sais pas, et en même temps avoir de grandes fidélités à, par période, comme ça. Vous comprenez? Avoir de grandes fidélités, aussi bien avec des amis, qu'avec des employeurs, qu'avec des metteurs en scène, qu'avec des directeurs de théâtre, qu'avec des directeurs d'acteurs, qu'avec des acteurs, des non-acteurs, des actrices, des non-actrices.
Mais savoir s'enfuir quand même.
Je trouve qu'il faut toujours fuir la stagnation, vous comprenez? Il faut toujours fuir, pour moi, il faut toujours fuir le confort, je dirais.
Michel Piccoli, vous avez un jour confié, l'âge, c'est très important pour les gens normaux. Alors nous, les acteurs, essayons d'être immortels, c'est tellement plus drôle. Vous avez le sentiment parfois d'y parvenir?
Oh, si je disais que je serais immortel,
ça serait
un petit peu dangereux parce que les gens vont croire que je commence à faire ma quête auprès des immortels du quai Conti. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils n'ont jamais reçu d'acteurs.
Ils n'ont jamais reçu d'acteurs sous la coupole?
Non, là je suis en train de faire un appel.
Oui, c'est officiel. Voilà. Allez-y, le micro est à vous.
Voilà. Bon, alors je suis à la disposition pour poser ma candidature, mais qui ne compte pas sur moi, je serai toujours en retard au rendez-vous. Mais je pense qu'il faut faire des voyages dans la vie, sans arrêt, quel que soit le métier que l'on fasse, quelle que soit la vie que l'on ait. Je connais des gens qui ont des métiers sédentaires, ce qui n'est pas mon cas, mais qui voyagent. Qui voyagent par leur humour, qui voyagent par les rencontres qu'ils font dans la vie, qui voyagent dans leurs rêves, vous comprenez? Mais pas tout seul, voyager tout seul, c'est très rare.
Vous avez décidé de voyager au travers du métier d'acteur, à quel âge?
9 ans.
Mais quel déclic s'est produit?
C'est pas moi qui ai décidé, ce sont les adultes qui ont mis le bacille en moi.
De quelle façon?
j'étais dans un collège et les professeurs de ce collège avaient l'habitude de faire jouer, de donner un spectacle de théâtre, joué par les élèves, organisé par les professeurs. C'était un collège assez merveilleux, pensionnaire, mais il y avait une ancienne actrice, il y avait un professeur de géographie qui avait été décorateur de théâtre, un professeur de dessin qui je ne sais pas quoi. Enfin, et c'était du semi-professionnalisme d'amateur, si je puis dire. Et moi qui étais plutôt quelqu'un de muet, devant les adultes, devant les gens de mon âge aussi, j'ai été absolument comme un poisson dans l'eau de Jacques Cabotin, de jouer le premier rôle de cette pièce qui était un conte d'hiver d'Andersen, qui consistait à habiller le roi pour son couronnement et l'habiller d'une façon tellement bizarre que finalement il défilait devant son peuple nu.
Oui. Bien sûr, ça voilà. Compte, bien connu. Il y avait un terreau familial qui vous prédisposait à cette envie de faire l'acteur sur scène, ou pas du tout ?
Peut-être mon père qui était très plutôt timide, extrêmement réservé, violoniste, qui peut-être aurait beaucoup aimé être acteur dans sa vie. Mais il ne m'en a jamais parlé. J'ai découvert ça à la fin de son existence. Il était très content que je fasse ce métier. Ça m'a beaucoup aidé, non ? Parce qu'à cette époque-là, dire qu'on voulait être acteur, c'était déjà aller sur une voie pas très honnête.
Hein. Oui.
Enfin, pour un homme, ça allait encore. Pour une femme, c'était encore la honte.
Vous dites une voie pas très honnête, peut-être au regard de votre mère, qui je crois était une héritière ruinée, mais en tout cas de la grande bourgeoisie industrielle et catholique d'avant-guerre. Elle, je crois qu'elle vous a élevé quand même avec des codes assez particuliers, qui étaient très éloignés de ceux des saltimbanques que vous alliez côtoyer, non ?
Oh, pas tellement. Parce qu'en effet, c'est d'une famille très... très croyante, catholique, industrielle, mais elle était la 12e de 12 enfants, et quand elle est arrivée à l'âge de l'adolescence, elle s'est aperçue que tout ça était tombé en faillite. Alors elle n'a pas beaucoup hérité de la richesse, et elle avait une passion, c'était le piano. Elle aurait peut-être aimé avoir d'autres passions dans la vie, mais enfin, je ne vais pas raconter la vie secrète de ma mère, ça fait pas
de
sens.
De quelle façon vous êtes-elle élevée, en tout cas ? Le piano, elle aurait aimé que vous en jouiez. Ouais, vous avez tout fait pour...
Elle n'a jamais su me l'enseigner.
Ah bon ?
Mais moi, j'ai toujours refusé de travailler. J'étais assez paresseux. Puis je ne comprenais pas pourquoi on essayait de me faire jouer avec deux mains sur un clavier. Peut-être aussi que j'étais saturé par le violon que j'entendais travailler par mon père toute la journée, ma mère aussi qui jouait du piano. J'ai eu une enfance très malheureuse, je n'avais pas de chambre à coucher, je dormais dans la salle à manger, mitoyenne de ce salon avec un piano. Je ne sais pas, c'était pour moi plutôt un encombrement des oreilles et de la vie, ce travail de musicien. J'ai bien changé d'avis maintenant, mais non, elle n'a pas su m'enseigner le piano, mais j'étais tellement paresseux. À un moment, je lui ai dit que je n'arrivais pas à lire les deux portées, que j'avais mal aux yeux. Alors elle m'a emmené chez ce qu'on appelait l'oculiste à l'époque, et qui a dit, mais il a très bons yeux ce petit. Elle a abandonné.
Vous étiez enfant unique, c'était un point,
non,
vous avez aimé.
Non, je n'étais pas enfant unique. J'ai vécu enfant unique, mais je suis né grâce à un frère qui est mort avant ma naissance. Et je pense très profondément que la mort de ce frère a fait que ma mère a pensé qu'il fallait quand même en refaire un autre.
On parlait beaucoup de ce frère décédé avant votre naissance à la maison.
Très peu, on a parlé très peu. Il y avait juste une petite photo dans un cadre doré posé sur la cheminée de marbre, mais on en parlait très peu.
Mais si vous dites que vous êtes né en fait parce qu'il est mort, votre premier rôle ça a été de combler son absence, c'est lourd à porter.
Est-ce que j'ai comblé son absence ? Non, c'est impossible de combler son absence. Non, je n'ai pas comblé son absence, je le remercie tous les jours de m'avoir permis de naître. Mais je regrette beaucoup de ne pas vivre encore avec lui.
Europe 1. Michel Piccoli au micro d'Isabelle Morizet. C'était en 2003 et on va continuer à retracer sa vie dans un instant sur Europe 1. Il évoquera ses 13 ans et puis aussi son diplôme de soigneur de chevaux, entre autres choses.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet qui nous propose de réécouter un ancien entretien datant de 2003 de Michel Piccoli, disparu le 12 mai dernier.
Michel Piccoli, vous aviez 13 ans, je crois, quand vous avez vécu l'exode. Vous l'avez fait d'ailleurs à bicyclette, cet exode. Et vous dites que ce sont les plus beaux jours de votre vie. Pour quelle raison ?
Pour la raison qu'à 13 ans, surtout il y a maintenant 50 ans plus, à 13 ans, on était encore un petit gamin. Et que de voir, d'entendre parler de la guerre, quoique j'étais très au fait de ce que c'était, de ce qu'était cette guerre, grâce à mes parents quand même, à la radio, où j'avais entendu Hitler. Enfin, si on était aux aguets, on savait beaucoup de choses sur cette guerre, alors que, soi-disant, on ne savait rien.
Il y avait une vraie conscience politique chez vous, à la maison ?
Oh, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Et quand on a 13 ans et que votre mère vous dit brusquement, écoute, il faut que tu t'en ailles en Corrèze, parce qu'on avait des amis pseudo-familiaux en Corrèze, il faut que tu fuis. Tu as ta bicyclette.
Vous êtes parti seul ?
Et je suis parti seul, oui. Mais
vous avez traversé la France seul à vélo ?
Oh, pas toute la France. D'Orléans à Tulle, c'est quand même assez long, mais enfin, pas toute la France.
Donc vous aviez un sentiment de liberté incroyable au milieu du chaos.
De liberté extraordinaire, d'une responsabilité formidable. J'étais enfin moi-même responsable de moi. Je n'avais plus besoin des autres. Ni des parents, ni des professeurs, ni des enseignants. Et j'étais comme un promeneur... découvrant le monde et les horreurs du monde. Je circulais à travers les gens qui étaient en exode. Je passais... j'ai perçu le bal des avions allemands qui tant tiraillaient sur les routes. Et j'étais, mais d'une...
Vous étiez léger.
J'étais léger, voilà. Vous avez dit le mot. J'étais léger au milieu de la catastrophe.
Parce qu'au bout du voyage, c'était la Corrèze. Est-ce que l'exode a fait de vous un petit paysan ? Vous êtes resté longtemps en Corrèze ?
Je suis resté assez longtemps et j'avais dans ma famille aussi, avant, en étant plus petit, des parents qui avaient une ferme dans l'Oise et j'allais souvent là et j'aurais dû être paysan, j'aurais dû être fermier. Mais est-ce que j'aurais été fermier de la Beauce ou est-ce que j'aurais été fermier de Corrèze ? Ça, je ne sais pas.
Mais vous étiez un bon paysan.
Ah, je pense que oui. En plus, j'avais un ami de cette époque, de l'école. Ah non, c'était après, cet ami, qui est devenu ingénieur agronome et j'aurais volontiers suivi comme exemple.
Qu'est-ce que c'est que ce diplôme de soigneur de chevaux et de mulets que vous avez obtenu pendant la guerre ?
C'est grâce à ma mère qui avait connu les chevaux à son époque. Son père avait des chevaux, des ânes, elle avait la passion des chevaux et des calèches. Et elle a compris que j'avais aussi une espèce d'attirance vers les chevaux. Et elle m'a permis, étant d'ailleurs pensionnaire à Compiègne, là où je ne suis pas devenu cavalier, mais fou de théâtre, elle m'a offert des leçons d'équitation. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais j'ai quand même appris à monter à cheval très tôt, et le cheval est resté pour moi un compagnon magique.
Et alors, en même temps, à cette époque-là, vous découvriez Stefan Zweig, qui était, je crois, une révélation. Comment les livres de Stefan Zweig sont-ils tombés dans vos mains d'adolescent ?
Grâce à la petite bibliothèque qu'il y avait chez mes parents.
Pourquoi Zweig ?
Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez, peut-être que j'ai tiré ce livre de la bibliothèque. Peut-être que j'avais déjà entendu que Stefan Zweig était un auteur qui avait déjà fui le pays des conquêtes, là, qui avait fui l'Allemagne et le nazisme, et peut-être que ça m'avait attiré de lire un monsieur qui était déjà dans les bouleversements, vous comprenez ? Dans les angoisses. J'ai aussi, grâce à la radio, entendu Hitler. J'ai entendu à la radio Hitler, il me faisait peur.
Donc les livres de Zweig répondaient à certaines interrogations.
Sûrement. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait, ce monsieur, mais j'avais envie de fuir.
Vous vous souvenez du premier livre de Zweig qui vous a ébloui ?
Je crois que ça s'appelle Les heures étoilées de l'humanité. C'est pas rien comme titre. Hein.
La guerre était finie lorsque vous avez annoncé à vos parents que vous décidiez de devenir acteur ?
Non. Elle était au bord d'être finie, oui.
Comment vous y êtes-vous pris pour leur dire ça ?
Pour leur dire ça, oui. Je leur ai dit je voudrais être acteur. Je n'ai réalisé que très longtemps après comment j'avais eu l'idée de dire ça. Je ne me rendais pas compte que le virus m'était rentré dans la peau déjà depuis une dizaine d'années. Quel danger, non, de dire je veux être acteur en ne sachant pas ce que ça voulait dire. Mais j'avais en mémoire un souvenir.
Mais eux qui savaient ce que cela signifiait n'étaient pas réfractaires à l'idée.
Non, ils étaient déjà artistes, comme on dit. Ils jouaient du piano, ils jouaient du violon, c'est déjà des métiers bizarres.
Michel Piccoli, la plupart des grands comédiens avouent avoir commencé par le cours Florent, René Simon ou le conservatoire. Vous, à un âge où en fait vous aviez tout à apprendre de ce métier, vous êtes directement monté sur scène ?
Moi, j'étais déjà monté. À l'âge de 9 ans, il y avait tous les professeurs, toutes les mères, les pères, les cousins, les cousines. D'ailleurs, je me souviens, c'est ma mère qui me l'a rappelé, je ne me souvenais pas du tout, mais elle m'a dit ça longtemps, beaucoup d'années après, mais elle m'avait demandé, après cette représentation, où elle mourait de peur sûrement, elle me dit, mais tu n'as pas eu peur ? Et je lui aurais répondu, non, au contraire.
Au contraire.
Oui. Pourquoi ? Parce que, enfin, je parlais, et enfin, les adultes m'écoutaient et se taisaient. C'était une jouissance. J'avais grandi là.
Quelle est la première porte à laquelle vous avez sonné comme apprenti comédien ?
Je crois au théâtre Pigalle, un théâtre qui n'existe plus, qui était rue Pigalle. Et je crois que j'ai frappé à la porte pour passer une audition. Ça se faisait à cette époque-là. On allait voir un directeur de théâtre ou un metteur en scène. On se doutait qu'il allait mettre une pièce en scène et on frappait à la porte. Il disait, je voudrais passer une audition.
Mais sans avoir de cursus particulier, sans jamais avoir appris à jouer.
Ah bah j'avais été déjà dans les cours de théâtre.
Ah.
Je savais comment il fallait rire ou pleurer. Enfin, j'ai appris après qu'il fallait pleurer autrement et qu'il faut rire autrement. Enfin bon, c'est très compliqué tout ça. Mais voilà, et j'ai passé une audition et j'ai été reçu. Et j'étais déjà assez cabotin parce que le directeur du théâtre m'a dit « Alors, on va signer un contrat. » Ah bon, oui. Alors voilà, c'est très simple. Ou vous avez votre nom au-dessus du titre, mais vous serez au pourcentage, ou alors vous avez un cachet, mais vous êtes en dessous du titre. Alors déjà cabotin, j'ai dit, moi je veux être au-dessus du titre. Je n'ai pas gagné un sou, bien sûr.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet. Et Michel Piccoli se poursuit dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Hommage à un comédien qui vient de nous quitter sur Europe 1 à 15h21. Et bien on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son entretien avec Michel Piccoli. C'était au début des années 2000, en 2003 précisément.
Le mépris, mille ou en mai, une étrange affaire, belle de jour, cette mort sur ordonnance, la belle noiseuse ou les choses de la vie. Notre mémoire est riche des films de Piccoli. Cet après-midi, le grand sphinx du cinéma français nous parle de sa vie. Michel Piccoli, alors on va replonger dans votre vie. Vous avez débuté à la télévision à une époque où les dramatiques télé étaient jouées exactement comme des pièces de théâtre, c'est-à-dire en direct total, sans filet, ce qui est absolument impensable aujourd'hui. On est au milieu des années 50 et la télévision était encore expérimentale à l'époque. Mais est-ce que vous avez aimé ce qu'elle tentait de faire, la télé de cette époque-là ?
C'était totalement extraordinaire.
C'est vrai.
Parce que c'était une... Enfin, la télévision était inventée depuis bien longtemps. Mais c'est la première fois que des studios pour la télévision existait et que des techniciens, des comédiens, des intervieweurs, des Pierre Lazareff, je ne sais pas quoi, prenaient possession de ce nouveau moyen d'expression complètement extraordinaire et primaire dans le bon sens, premier, quoi. Et je me souviens qu'en effet, on faisait des dramatiques, ce qui s'appelait à l'époque, c'est-à-dire que c'était des pièces de théâtre, ou du Molière, ou du Roussin, et qu'on répétait comme au théâtre, et on jouait en direct. C'est-à-dire que la personne qui annonçait l'heure ou qui finissait les nouvelles, on entendait, nous, sur le plateau, 5, 4, 3, 2, 1, attention, c'est à vous. Et il fallait de mémoire jouer au milieu des caméras qui pesaient un poids gigantesque. Il y avait 9 ou 10 caméras. Le sol était jonché de marques. Et pour les caméras...
Et de câbles qu'il fallait enjamber.
Et de câbles qu'il fallait enjamber. On se cassait la gueule, etc. C'était un exercice pas dangereux. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Mais c'était un exercice d'équilibriste formidable.
C'était un exercice d'une grande ambition, en tout cas. La télé était ambitieuse à l'époque.
Elle l'est toujours, mais d'une façon très différente.
D'une façon très différente, parce que...
diamétralement opposée.
Je sais que vous n'aimez pas trop la regarder, la télévision, aujourd'hui, Michel Piccoli.
Alors là, on en a pour longtemps. À
c'est vrai. Ça.
Non, c'est que je n'ai pas le temps de la regarder parce que elle ne me fait rien découvrir. Et surtout, je trouve que c'est alors que c'est un moyen de d'enrichissement, d'amusement, de découverte extraordinaire. Mais je trouve que la télévision ne nous fait rien découvrir du tout. Rien.
La plupart des grands acteurs français tournent pour la télévision. Jeanne Moreau, Michel Serrault, Deneuve, Depardieu. Vous, jamais. Pour quelle raison ne vous voit-on pas dans des dramatiques télé aujourd'hui?
Mais parce qu'on ne me propose pas. Alors attendez, là vous restez muette et moi
oui,
aussi.
Oui.
Mais non, on ne me propose pas. Peut-être que j'ai trop dit de bien de la télévision naissante et que je ne dis pas assez bien de la télévision mourante. Pardon, actuelle. Alors qu'ils pensent que je suis un canard, qu'il vaut mieux ne pas engager ce détracteur de notre beau monument hertzien et... Vous comprenez? Il y a peut-être ça, je ne sais pas.
Et vous en concevez une certaine mélancolie ou pas du tout?
Aucune. Ah, oh, pas du tout, vous savez, non. Non, quelle mélancolie de la télévision passée?
Non, de ne pas interpréter de grands rôles, de grandes œuvres à la télé.
Je ne sais pas si les grands rôles et les grandes œuvres restent des grands rôles et des grandes œuvres à la télé. je ne juge pas ceux qui font ça, hein. Je ne les juge pas mal du tout, hein. Chacun prend son pognon où il le peut.
Voilà, à nouveau c'est clair. On va donc revenir à l'année 63. En vous plaçant cette année-là face à Brigitte Bardot, dans Le Mépris...
C'était pas rien, à l'époque. Aujourd'hui non plus, c'est pas rien.
Godard a bouleversé votre carrière, on peut dire ça?
Il l'a enrichi. Et il l'a bouleversé, bien sûr. Oui, c'était encore un... C'est toujours, c'est un zombie metteur en scène, un cinéaste tout à fait extravagant, extraordinaire. Et d'avoir réussi à pour un des premiers films de Godard, qui était Brigitte Bardot, qui était la star mondiale de la sexualité cinématographique, Jack Palance, Fritz Lang, et qui d'autre? Et moi, non? Eh ben, vous vous rendez compte? Donc, auprès de qui je commençais à faire du cinéma avec...
Vous savez pour quelle raison il vous a choisi, vous, jeune comédien, auprès de toutes ces stars?
Oui, parce qu'à un moment, je crois qu'il devait faire le film avec Frank Sinatra, et je ne sais pas qui, ça ne s'est pas fait, alors il en a pris d'autres.
Il devait faire le film avec Sinatra?
Je crois bien, ou je me trompe, enfin, il espérait faire ça avec des stars américaines, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y avait trois producteurs pour ce film.
Oui.
Il y avait Joe Levin, le producteur américain, Ponti, le producteur italien, et Bourgard, le producteur français. Alors, on aurait pu faire ça avec d'autres acteurs. Les acteurs sont toujours interchangeables, la plupart du temps.
Mais, toujours interchangeables, les acteurs, la plupart du temps, c'est encore une nuance de dérision.
Non, c'est pas du tout de la dérision, On peut avoir un réalisateur, un auteur peut avoir une idée fixe sur un acteur et abandonner si cet acteur ne peut pas, mais on peut réécrire un peu un scénario en fonction d'un autre acteur.
Mais quand vous dites réécrire un scénario, il paraît qu'il n'y avait aucun scénario d'écrit pour Le Mépris lorsque Godard...
Faux.
Vous êtes donné votre rendez-vous sur le tournage. Ah, pourquoi raconte-t-on c'est incroyable, c'est comme une rumeur depuis toutes ces années.
On raconte un tas de choses sur Godard et que il y a un tas de choses à raconter sur Godard. En effet, il travaille d'une façon très particulière, très personnelle et très secrète. Mais pour Le Mépris, il y avait un scénario. Il semble qu'à la fin du scénario, il disait à ce moment-là, Brigitte Bardot mettra une serviette éponge, mais je ne vais pas vous dire quelle couleur ou quelle qualité, et puis le scénario s'arrêtait comme ça. Mais il y avait déjà bien, il me semble, au moins 70 pages de l'histoire. Oh oui.
Le fait que Bardot soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une espèce de phénomène mondial de la sexualité à l'époque, ça se répercutait ou pas du tout sur ce plateau?
Pas du tout. Elle était très modeste devant Godard, très intimidée devant Fritz Lang, et sans doute très contente de travailler avec un metteur en scène qui n'était pas habituel pour elle, j'imagine. Et aussi, elle n'était peut-être pas mécontente de tourner à Rome et à Capri, c'était confortable. Et voilà, et je me souviens par exemple de la présentation de Brigitte à Fritz Lang sur le tournage. Elle était comme une petite fille, elle était de voir arriver Fritz Lang qui est toujours et qui sera toujours un dieu du cinéma. Elle a dit bonjour monsieur, elle était toute tremblante, intimidée. Alors elle était un peu à part sur le film, mais admirable. Dans le film, elle est extraordinaire. Parce que c'était une actrice extraordinaire aussi. C'était pas seulement une très belle jeune fille. Hein.
C'est rare d'entendre dire ça. C'était une actrice extraordinaire aussi, en parlant de Bardot.
Quelquefois, elle a été extraordinaire. Et moi, je l'ai vue au théâtre. Elle avait remplacé, je crois, Dany Robin dans une pièce au théâtre de l'Atelier. Elle était magnifique. Mais elle n'était pas du tout passionnée par son métier d'actrice. Pas du tout. Mais c'était un animal... C'était un animal de cinéma exceptionnel.
Michel Piccoli, comment résiste-t-on aux femmes irrésistibles? Parce que vous en avez tenu beaucoup de femmes sublimes dans vos bras.
Écoutez, je ne voudrais pas être indiscret vis-à-vis des femmes que vous pouvez supposer. On peut très bien résister. Quelquefois même, il faut résister.
Michel Piccoli n'est plus, mais il est quand même un petit peu avec nous cet après-midi grâce aux archives radio. Vous écoutez un entretien de 2003 jusqu'à 16h.
Europe 1.
Il a partagé sa vie avec Juliette Gréco, sans quelques tourments, c'est vrai. Michel Piccoli se raconte cet après-midi, retour sur un entretien de 2003. Il avait accordé en effet cet entretien à Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Michel Piccoli, à la fin des années 60 et dans les années 70, vous avez vraiment incarné l'idéal masculin bourgeois avec tout ce qu'il pouvait cacher, d'ailleurs parfois d'ambigu, de dérangeant. J'en veux pour preuve des rôles qui vont de Belle de jour aux choses de la vie, en passant par Max et les Ferrailleurs ou La Grande Bouffe. Mais qui, de Buñuel, Claude Sautet ou Ferreri, vous a finalement le mieux cerné? Parce que la palette des rôles, elle est étonnante. Comment, par exemple, passe-t-on des choses de la vie à La Grande Bouffe?
Le premier film de Ferreri que j'ai vu, Ferreri, c'était pas La Grande Bouffe, c'est un film qui s'appelle Dillinger est mort, que j'ai tourné à la suite ou avant, enfin à la même période que Les choses de la vie de Claude Sautet. Et déjà, Marco Ferreri était taxé, et en Italie et encore plus en France, d'un dangereux cinéaste à fuir, et surtout de ne pas montrer ses films, qui étaient trop visionnaires, subversifs, etc. Tandis que Claude Sautet était le cinéaste de l'amour, de la passion...
De l'ordre moral
L'ordre moral...
Pas tant que ça.
Pas tellement, mais enfin... Il étudiait psychologiquement les personnages qu'il mettait sur son écran, tandis que Ferreri était un étymologiste qui piquait les personnages sur sa pellicule avec une épingle, tout ça comme le bon. Et je me souviens un événement très drôle, c'est que les deux films étaient présentés en même temps sur les écrans, à 8 jours de distance. On sentait bien que Les choses de la vie allaient plutôt être un succès, et que Dillinger est mort allait être un échec. Et ça m'a intéressé, j'ai demandé à Claude Sautet de venir voir Dillinger est mort, et à Ferry de venir voir
Les choses de la vie.
Les choses de la vie. Claude Sautet est sorti de la projection du film de Ferry, Dillinger est mort, en disant « J'arrête de faire du cinéma ».
Non.
Mais extrêmement sérieux, les larmes aux yeux, car c'était un homme d'une sensibilité, d'un émotionnel absolument extraordinaire. Un fou furieux d'ailleurs, comme Ferreri, mais d'une autre manière. Comme il disait lui-même, moi je suis né à Montrouge, je ne suis pas né à Rome. Mais il a dit, j'arrête de faire du cinéma. Oui, c'est trop beau, moi j'arrête, je suis incapable de faire ça.
Et la réaction de Ferreri face au film de Claude Sautet, Les choses de la vie?
Que c'est un film sentimental.
Alors, les deux avaient raison. Mais les deux étaient des hommes absolument fous de passion pour la vie et pour les secrets de la vie et pour les chemins tortueux de l'existence, mais Sautet, comme il l'a dit lui-même, était né à Montrouge, tandis que Ferreri était né à Milan. Et ce sont deux mondes très différents. Et Ferreri était un entomologiste, Sautet était un médecin, un psychologue merveilleux.
Michel Piccoli, est-il vrai qu'un jour, alors que vous étiez en tête-à-tête avec Claude Sautet, il vous a confié que finalement vous aviez tout à fait raison de faire ces films si subversifs de Ferreri parce qu'il considérait que ça devait être votre soupape de sécurité.
Vous avez raison. C'est extraordinaire. Ça, heureusement que vous vous rappelez cette anecdote. Vous voyez, Claude Sautet, qui était taxé d'homme tellement classique,
oui,
sage, disons, et qui aimait tellement les films de Ferreri, qui m'a dit, tu as raison de faire ces films-là, ce sont tes soupapes de sécurité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que j'avais raison de ne pas vouloir m'installer dans un succès non pas facile, il n'y a aucun succès facile, mais que j'avais raison d'aller voyager aussi ailleurs. Que c'était peut-être des chemins de traverse, des chemins sinueux qu'il fallait prendre pour essayer de découvrir encore d'autres choses que une espèce de voie royale qui risquait de s'ouvrir à vous. Donc vous savez, les voies royales, hein, on passe un pont, le pont s'écroule, la voie elle est foutue. Hein.
Pourtant, lorsque par exemple La Grande Bouffe en 73 est sortie, est-ce que ce film n'a pas risqué de remettre en question votre carrière? Parce que ça a été plus qu'un tollé, ça a été un scandale national.
C'était un scandale national et international. Nous nous sommes fait huer à Cannes, cracher dessus, insulter, comme jamais plus, je crois, des auteurs ou des comédiens de cinéma se font insulter. Maintenant, on est habitué à tellement de choses. Mm-hmm. Par exemple, si on met une image un petit peu trop érotique dans un film, toutes les saloperies pornographiques qu'on nous montre à la télévision nous tuent l'imaginaire de cette image érotique du cinéma. Vous voyez ma vilainie au passage. Mais si on revoit La Grande Bouffe maintenant, les personnes qui revoient La Grande Bouffe maintenant, ça a été un moment où ce film La Grande Bouffe, c'était sur l'angoisse de l'homme mûr après 68. À la fin de 68, de l'homme mûr qui voyait l'homme, sa vie s'écrouler sous ses pieds et sous son mental.
Parce que 68, c'était riche de promesses pour la jeunesse, mais pour l'homme mûr, c'était riche de quelles promesses, c'est ça?
C'était riche de la mort. C'était riche de. Il fallait tout remettre en question, tout se remettre en question. Alors quand on est très jeune et qu'on n'a pas, c'est la moindre des choses, c'est de se remettre sans arrêt en question. Mais quand on a pignon sur rue, qu'on a lutté pendant je sais pas combien de temps pour enfin avoir une situation et que tous ces jeunes godelureaux inconscients foutent votre vie en l'air, c'est la panique, c'est la peur, c'est normal.
En 73, vous étiez le grand séducteur du cinéma français. Vous faites donc ce film de Ferreri, La Grande Bouffe. Ça vous a amusé sans doute de devenir l'homme à abattre?
Bien sûr que ça m'a amusé, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que c'était une continuité avec un metteur en scène d'exception qui s'appelait Ferreri, que je travaillais avec Marcello, avec Ugo Tognazzi, et que, je n'oublie pas Philippe Noiret, mais que tous les trois, nous avions tourné beaucoup, beaucoup avec Ferreri, et que nous étions comme une troupe au théâtre, une troupe de cinéma. Et Noiret s'est joint à nous, fort heureusement, mais il n'avait jamais travaillé avec Ferreri. Et Andrea Ferréol, cette débutante au cinéma, femme splendide. Femme splendide s'il en est. Nous, on a rarement vu une femme aussi belle qu'Andrea Ferréol au cinéma. Je ne sais pas si vous
votre
d'elle.
Regard est gourmand, Michel Piccoli, enfin, quand vous parlez d'elle.
Nous étions tous gourmands. et les personnages dans l'histoire du film étaient gourmands de cette femme qui avait des comportements un peu trop affectueux avec tous ces hommes. Mais si on regarde bien le fond du film, c'était un film d'une tendresse extraordinaire vis-à-vis de cette femme infirmière. C'était pas du tout une femme transformée en prostituée, loin de là. Et les gens qui voient maintenant les films de Ferreri sont absolument, ils ne les voient plus parce que ça ne passe plus dans le commerce. Mais s'ils les voient dans un festival, qui n'a jamais vu le film de Ferreri, ils sont subjugués. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais c'est extraordinaire, mais comme c'est beau.
Le public bourgeois de l'époque vous en a voulu assez longtemps d'avoir joué dans La Grande Bouffe, à votre avis?
Un certain public bourgeois, un public bourgeois de l'église du Chardonneret, je dirais. Mais en effet, oui, on m'en a voulu beaucoup, parce que je trahissais le bel homme mûr qui représentait tout l'avenir confortable de nos existences.
Michel Piccoli, on a l'impression que dans les années 80, vous êtes comporté un petit peu comme un explorateur, malgré votre statut de star. Vous avez, par exemple, travaillé avec Chéreau au Théâtre des Amandiers.
Heureusement,
dites-vous, vous avez fait des films avec Léo Scarrax, Doyon, Youssef Chahine, heureusement. Mais est-ce que vous aviez peur, passé 50 ans, finalement, de ne plus rien découvrir sur ce métier? On a l'impression que vous retourniez aux sources.
Sûrement, parce que j'aurais pu m'installer dans un confort de ce qu'on appelait à l'époque, pardon, j'ai l'air de me lancer des fleurs, du séducteur assuré de son avenir jusqu'à la fin de ses jours.
Ça vous énerve, cette formule-là, n'est-ce pas?
Non, ça ne m'énerve pas, je trouve ça très ennuyeux. Oui. Et puis, on peut être autre chose que séducteur, on peut être séducteur autrement aussi. Puis il faut changer de style de séduction, suivant le temps qui passe, non? On ne peut pas être séducteur à 60 ans comme on l'était à 19 ans et demi ou à 42 ans, le bel âge de la séduction.
La belle noiseuse de Jacques Rivette avec Emmanuel Béart est l'un de vos derniers grands succès au cinéma. Le film date de 91. Or, vous continuez de tourner en Italie, en Espagne. Pourquoi vous faites-vous rare sur les écrans français?
Je me fais plus rare, je pense, parce que beaucoup de mes amis cinéastes sont morts, donc ça fait du travail en moins. Deuxièmement, je change d'âge, donc je suis dans un autre registre de personnages, et que voilà, j'ai peut-être un temps à attendre pour qu'on se dise, oh ben tiens, ce vieillard, il va être magnifique pour faire ceci ou cela. Vous comprenez? Ah ben oui. Mais heureusement, j'ai quand même tourné. Maintenant, c'est vrai que le dernier film que j'ai tourné, c'était Je rentre à la maison de Manuel de Oliveira.
Oui.
Je ne pense pas du tout que ce soit le dernier film que j'aurais fait, mais ça serait le dernier, que ça serait terminé en apothéose.
On parle de votre carrière d'acteur, mais vous êtes depuis quelques années maintenant metteur en scène. Qu'est-ce qui pousse un acteur à réaliser son premier film à 72 ans?
Depuis que je fais du cinéma, j'ai toujours été beaucoup plus fasciné par le travail qui se fait derrière la caméra que devant.
Mais alors pourquoi avoir attendu si longtemps?
On me pose cette question, je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un de lent dans la vie d'abord. Que j'avais deux métiers, le métier de faire l'acteur au cinéma, de faire l'acteur au théâtre, le métier de vivre dans la vie aussi, parce que ça je n'ai jamais oublié, et puis, je ne sais pas, un déclic. Peut-être me disais-je, n'attendons pas plus longtemps, parce que je n'aurai plus l'énergie. Parce qu'il faut une énergie formidable pour réaliser un film. Pour être acteur au cinéma, il demande, disons, 2 mois de travail. Pour un réalisateur, ça demande 1 an et demi, 2 ans. Mmh. Mais voilà, j'ai toujours été fasciné par la mécanique, par les mécanismes de la fabrication d'un film. Et un jour, je me suis lancé, voilà.
Au-delà du mécanisme de la fabrication d'un film.
Pourquoi je dis mécanisme, c'est...
Bien sûr, justement.
L'invention du cinéma.
Voilà, mais au-delà de tout ça, Michel Piccoli, avec, alors voilà, et La plage noire, dont vous avez réalisé 2 longs métrages, qu'est-ce qu'il était essentiel pour vous de dire, de montrer, de prouver peut-être à vous-même? Passé 72 ans, en tout à coup devenant chef sur un plateau, dirigeant des hommes, des acteurs.
Oui, un nouveau défi, une nouvelle expérience, une envie fantastique. Quand on a une envie fantastique, il faut un jour la réaliser, non? Sinon on se regarde mal dans la glace.
Donc il y a un matin, on se réveille et on se dit « je vais faire un film, mon premier ».
Un peu, oui. D'abord j'ai écrit. Alors, c'est le début de faire un film, c'est d'écrire. Mais cela dit, les 2 films que j'ai faits sont absolument admirables, mais peu de gens les ont vus. Mais j'ai la chance d'avoir fait ces 2 films avec un producteur très intelligent, complètement fou, qui s'appelle Paolo Branco, qui m'est très fidèle, je le suis forcément fidèle, car personne ne m'attend pour faire un film, non ? Pourquoi il y en a tellement d'autres qui font des films ou très beaux, ou très commerciaux, ou magnifiques, ou les 2 en même temps? Et voilà, et je vais faire le 3e avec le même producteur. C'est une sorte de fidélité encore là, comme avec les réalisateurs, vous comprenez, ou les auteurs.
Vous avez fait dire à vos acteurs dans vos deux films ce que l'on ne vous a jamais fait dire à vous, acteurs?
Ah là, c'est une bonne question. J'aurais pu, dans le second film, La Plage Noire, j'aurais pu jouer le personnage que joue Radziwiłłowicz, un comédien magnifique polonais. Mais jamais je ne me sentirais capable de me filmer moi-même. Ça, je m'encombrerais, je trouverais ça d'un nombrilisme insupportable pour moi.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et Michel Piccoli, disparu le 12 mai dernier. Et on va continuer à se replonger dans cet entretien de 2003 dans un instant sur Europe 1. Et 23 ans plus tard, en 2003 donc, Isabelle Morizet retraçait le parcours de Michel Piccoli sur Europe 1. Une conversation que nous vous proposons de redécouvrir cet après-midi. C'est la dernière partie de cette conversation. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Michel Piccoli, chaque jour lorsqu'en fin d'après-midi vous prenez le chemin du théâtre des Bouffes du Nord pour y interpréter le personnage de Tchekhov au travers donc de la correspondance qu'il établit avec Olga Knipper dans la pièce « Ta main dans la mienne » de Carole Rocamora, qu'est-ce qui vous rend impatient de monter sur scène?
J'ai peut-être été impatient dès le réveil, je ne sais pas.
Dès le réveil même?
Peut-être. Non, c'est pas vrai. J'arrive à très bien organiser mes horaires de vie. C'est-à-dire que quand je me réveille, je ne me dis pas « Oh mon Dieu, ce soir, j'ai la chance d'aller au Bouffes du Nord jouer une pièce avec Natacha Paris, mise en scène par Peter Brook ». Non, je fais autre chose, je pense à autre chose. Mais j'ai besoin, disons, d'un sas de déconcentration de tout, pendant, disons, trois quarts d'heure avant de jouer. Trois quarts d'heure, une heure.
Qu'est-ce que vous mettez dans ce sas de déconcentration de tout?
Rien,
vous dites?
Justement. Ma loge, c'est le contraire d'une loge normale d'acteurs où il y a des fanfreluches, des fleurs, des bouts de cigarettes, des machins, des trucs, des photos de sa maman, de son enfant, de sa maîtresse, etc. Et puis, non, moi, c'est vraiment volontairement nu pour commettre un sas de décontraction avant de monter dans la capsule, si je peux dire, je sais pas.
Monter dans la capsule.
Ils font ça, je crois. Ils doivent faire ça, les cosmonautes.
C'est ce qu'ils font. Et c'est ce que vous faites donc sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord tous les soirs.
Oui.
Vous montez dans la capsule.
Voilà. Je mets en apesanteur un petit peu.
Jouer, ce mot qui définit la vie d'un acteur, est un terme enfantin. Vous, à 77 ans, vous le remplissez de quelle signification? Jouer.
Toujours enfantin.
Toujours enfantin.
Ah oui. Oui. Pas seulement, parce que j'essaye toujours de faire des progrès, de faire des recherches, de faire mieux, de faire autrement, etc. Mais toujours... toujours l'enfance, oui. Toujours l'enfance. Je crois que si on a la chance d'avoir choisi un métier qui vous permette d'avoir le don, le talent et l'énergie de toujours chercher ce qui va se passer demain et non pas regretter ce qui s'est passé hier, je crois que c'est comme ça qu'on reste dans l'enfance. Mais ça peut être comme ça, pas seulement pour les artistes, comme on dit. Ça peut être ça pour des personnes qui ont d'autres disciplines de travail dans la vie.
Vous jouez donc Ta main dans la mienne au Bouffes du Nord, mise en scène par Peter Brook. Il s'agit de quel voyage?
D'un voyage de 6 ans entre une femme et un homme qui se sont aimés d'une passion folle, d'abord comme amis, après comme amants, après comme mari et femme, qui pour des raisons, elle, comédienne, ayant une passion folle du théâtre, étant obligé de rester vivre à Moscou, à Saint-Pétersbourg, lui, très malade, étant obligé de vivre dans le sud pour essayer de ne pas mourir trop vite, ils ont été obligés d'être souvent très souvent séparés et ils se sont écrit beaucoup de lettres. Ils ont communiqué leur passion grâce aux lettres. Pas seulement grâce aux lettres. Pas seulement. C'était aussi une passion amoureuse et charnelle et extraordinaire. Mais la séparation faisait que les lettres remplaçaient l'absence.
C'est un amour très particulier qu'on voit donc mûrir et s'épanouir au travers de cette correspondance entre Tchekhov, Olga Knipper.
Oui. Sur la pièce du Runeur 26, et ça a duré pour eux 6 années. C'est très condensé. Mais
comment, par exemple, cette femme répondait-elle cette femme amoureuse, répondait-elle aux lettres d'un auteur aussi immense que Tchekhov. Rentrer dans le jeu de la correspondance, même si on est simplement l'être aimé, mais soudain, il s'agit d'établir quelque chose avec un auteur universel.
Oui, mais enfin, il n'était pas encore auteur universel. C'était un auteur qui, de son vivant, était très décrié en Russie.
Mais il avait, de toute
mais
façon,
il avait une aura
cette stature
tout à fait exceptionnelle. Mais elle était absolument passionnée par le théâtre, donc elle est tombée amoureuse de cet homme d'exception, homme de théâtre aussi, lui-même amoureux des femmes, mais tombé sur la femme, dernière femme de sa vie, parce qu'il avait une passion fantastique pour le théâtre. Mais pas seulement pour l'actrice, pour le théâtre. Et voilà, c'est une fusion de deux personnes amoureuses l'une de l'autre et amoureuses du théâtre.
Tchekhov écrivait à sa femme, Peter Brook met en scène son épouse. Dans cette pièce, en fait, il y a plusieurs jeux de correspondance.
Mais...
C'est l'amour qui réunit tous ces personnages, mais il y a une espèce de direction parallèle.
Oui, mais parce que entre Natacha, la femme Paris, la femme de Peter, nous avons joué ensemble la cerisée de Tchekhov. Elle jouait ma sœur, je jouais son frère. Peter a toujours été très fidèle à moi, moi je suis très fidèle à lui. Voilà, sur ces lettres, grâce à ces lettres, on se retrouve. On retrouve les passions que nous nous sommes partagées.
Est-ce qu'il est vrai, Michel Piccoli, que vous trouvez extravagant de vieillir ?
Extravagant de vieillir ? Je ne sais plus qui, mais je ne me souviens plus de l'auteur qui disait « Je ne suis pas mort, je ne vis plus ». Mais alors, comment je suis ? Devine.
Qu'est-ce que vous avez peut-être le moins bien réussi dans votre vie ?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Mais heureusement que les choses que je n'ai pas réussies, je les ai remplacées par des choses réussies. Mais ça, je rentre dans ma vie intime, je me tairai là. Mais chacun peut traduire.
La vie dont vous aviez rêvé, vous l'avez eue ?
J'ai eu tellement de vie. Grâce à toutes les pièces que j'ai jouées, tous les films que j'ai faits, les dames qui m'ont fait l'honneur d'être mes épouses. Oui.
Mais alors là, je ne m'adresse pas à l'acteur. Qu'est-ce qui est essentiel dans une vie d'homme ?
Tout. Nous sommes insatiables. Je suis insatiable. Qu'est-ce qui est essentiel ? Tout.
Alors je vous souhaite une très belle et longue route.
Oui, elle se raccourcit, mais elle sera encore très belle.
Oui, ce n'est encore 2000 projets. Je vous remercie d'être passé par cette émission. À bientôt, Michel Piccoli.
À bientôt.
Europe 1. En 2003, Isabelle Morizet retraçait le parcours du comédien Michel Piccoli, disparu le 12 mai dernier. Demain, retour en 2020, et Isabelle Morizet s'entretiendra avec Rachida Dati.